Il y a aussi votre dernier ouvrage, Juifs français de gauche dans le désordre, aux éditions La Découverte. Jérôme Carcenti, Corruption, au pluriel, l'effondrement de l'état de droit. Aux éditions Autrement, Magali Lafourcade, La justice en procès, aux éditions Les Petits Matins. Il y a aussi Démasculiniser la justice, que je recommande chaleureusement. C'était le précédent ouvrage. Je précise qu'on peut également vous lire dans les colonnes du dernier numéro du magazine de la LDH, Droits et Libertés, avec en plus un lien vidéo de votre intervention au siège de la Ligue des Droits de l'Homme, il y a quelques mois. Pour terminer, un grand merci à Radio Libertaire de nous avoir accueillis ce soir. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Libertaire. Je vais essayer de donner ça, www.anarchiste.info/radio/libertaire/podcast. Merci à Jim Viltard, la section Paris 15 de la LDH, qui m'a aidé à la préparer cette émission. Merci aussi à Daniel Krasilchik de la section 14-6-7 de la LDH, qui coordonne ce rendez-vous mensuel sur Radio Libertaire. Et puis n'oubliez pas le site de la Ligue des Droits de l'Homme, ldh-france.org. Bonne soirée à tous et surtout, ne lâchez rien.
Merci beaucoup et on passe à l'émission Les Amis d'Orwell.
Bonsoir, bienvenue dans Les Amis d'Orwell.
C'était la patrouille de police.
Snooping into people's
windows. Ils fouinaient en regardant à travers les fenêtres des
gens. The patrols did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police mattered.
La police de la pensée.
Cette semaine, on vous emmène à Fougues, petit village au fin fond de la Seine-et-Marne. Ça se trouve au sud de Paris, qui est le théâtre d'un vaste chantier mégalomane, cher au président Macron. Le projet s'appelle « Pour faire joli, Campus IA ». Alors, ça n'a rien à voir avec un centre universitaire. C'est tout simplement un projet d'énorme usine informatique. Des fermes de serveurs qui vont occuper 90 hectares, des fermes de données donc. Le terme convient mieux d'ailleurs que les data centers, car ces fermes seront là pour donner à manger aux modèles de langage des systèmes d'intelligence artificielle. Autour de Fougues, dimanche 24 mai, dimanche dernier, il y avait donc une journée de mobilisation contre Campus IA, autour d'une interorga qui a réuni des centaines de personnes. Alors ce complexe d'usines à serveurs est pharaonique, hein, à pleine puissance. Ce site sera censé consommer autant qu'un réacteur nucléaire EPR, c'est-à-dire 1,4 gigawatts. Alors comme vous allez l'entendre dans ce reportage, les initiateurs ont tout fait pour échapper au contrôle démocratique. Ils ont découpé leur chantier en plusieurs morceaux pour rester en deçà des obligations en matière de protection de l'environnement. Tout ça pour éviter d'être classé en site Céveso. Ce projet, c'est la folie des grandeurs, l'illustration d'une fuite en avant pour renforcer le règne mortifère de l'industrie informatique. Alors pendant un mois, 30 jours seulement, les autorités ont daigné organiser une consultation publique qui se termine d'ailleurs le 30 mai, demain, samedi 30 mai, sans que cette consultation, bien entendu, puisse bloquer le projet en cas de forte opposition. Dans le reportage qui va suivre, vous entendrez plusieurs collectifs impliqués dans la lutte, comme la Confédération Paysanne, le collectif des naturalistes des terres, l'Alliance écologique et sociale de l'Essonne, l'Interorga en lutte contre Campus IA. Il y aura aussi la coordination antinucléaire d'Île-de-France, le collectif des soulèvements de la Seine. Et nous avons aussi croisé sur place Valentin Martini, membre de la rédaction du Chiffon, le journal Le Chiffon, qui s'est penché sur ce chantier dans ses derniers numéros, notamment le numéro 20 qui est sorti au printemps. Et Valentin donc interviendra à deux reprises dans l'émission. Nous étions donc sur place dimanche dernier à Fougues. Merci à Lolo pour la prise de son. Et tout ça a commencé par une petite randonnée en vélo, partie de Melun pour rejoindre le village de Fougues. Campus IA, ni ici, ni ailleurs. C'est parti.
Le projet de, le fameux projet de Fuju qui fait 1,4 gigawatts de la puissance d'une centrale nucléaire EPR. Hein ? Voilà, donc on est un petit convoi cycliste et on va se rassembler un petit peu pour donner notre opposition à ce projet complètement fou qui soi-disant fait partie de l'indépendance nationale, mais en fait il n'a rien à voir puisqu'en fait c'est investi essentiellement par l'Émirat Arabe Uni. MGX en particulier, à 70% d'ailleurs. Voilà, donc on va aller voir là-bas ce qui se passe.
Le développement de l'IA avec les data centers qui en dépendent, c'est quelque chose qui va être catastrophique. Et il faudrait. C'est pas la bonne direction, il faudrait apprendre à vivre autrement et à s'en passer, quoi.
Ouais, c'est ça. On développe toujours plus de technologies dans le but derrière de développer encore beaucoup de choses qui vont être écocides, etc. quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on sent qu'on a besoin de développer ça pour rester dans la course, etc. Mais on se rend pas compte que on va dans une direction qui nous fait aller dans le mur. Et le jour où on va se prendre le mur, ce sera très violent. Donc on essaie de faire en sorte qu'il y ait une certaine prise de conscience chez les gens, quoi.
Toi, tu es d'Extinction Rébellion.
Oui.
Tu es de Melun ou tu viens de plus loin?
On est venu dans le train qui arrive à Melun mais qui est parti de Paris.
Donc tu viens de Paris jusqu'à là, quoi.
Bah oui, parce que c'est des sujets qui sont importants et puis les gros projets comme ça, souvent ils vont pas être dans Paris, donc il faut quand même se déplacer. Et je pense que c'est important parce que tout ce qui concerne le numérique, en fait, on oublie toute la matérialité derrière que ça implique, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est gratuit parce que c'est numérique, mais en fait, tout laisse des traces et c'est des traces qui sont très fortes. Donc c'est important aussi de voir ce que c'est, d'où ça vient.
Peut-être que certains ont vu les travaux en passant, notamment en vélo ou en voiture. Donc voilà, c'est des champs qui sont en train d'être retournés pour construire des data centers pour l'intelligence artificielle. Tout ça va engendrer énormément de pollution, que ce soit du bruit, de la pollution olfactive avec la station d'épuration, également des ondes électromagnétiques et surtout il y aura 500 tonnes de PFAS, donc les polluants éternels, qui seront stockés sur place et 3% de fuites par an sont estimées, donc ça fait 15 tonnes qui seront relâchées chaque année. 15 tonnes de polluants éternels juste au-dessus de la nappe de Champigny qui alimente en eau beaucoup de gens. Donc voilà, on est ici pour se mobiliser contre ce projet. Ce projet, j'ai oublié de le mentionner, il est à côté d'une prison, d'une future prison à Crissinois. Donc ce sera les personnes qui seront dans la prison qui seront forcément les premières personnes à être impactées. Et évidemment, les personnes des villages alentours le seront aussi. Et puis, un peu plus loin de chez nous, il y aura des personnes à impacter dans le monde entier, puisque les serveurs qui seront dans les data centers seront produits à partir de matériaux qui seront extraits aux quatre coins du monde, notamment au Soudan et au Congo, où ça provoque des ravages écologiques et humains. On pourra revenir dessus lors des prises de parole et des ateliers cet après-midi. Et voilà, c'était un petit résumé de ce qu'est ce projet. Donc ici, on est à Champeau et on peut aussi applaudir pour remercier le maire de Champeau qui nous prête le terrain très gentiment, ainsi que l'équipe de foot qui nous prête le vestiaire. Merci. Et on a choisi cette date du 24 mai pour deux raisons. La première, c'est que c'est pendant le printemps des luttes locales. Le printemps des luttes locales, c'est quelques jours de mobilisation du 23 au 26 mai. Donc ce week-end, dans toute la France, pour lutter contre les projets d'artificialisation. Donc on a pu bénéficier de leur soutien et surtout on s'inscrit dans ce cadre-là pour lutter contre l'artificialisation. Et aussi parce que, vous le savez peut-être, il y a actuellement une enquête publique au sujet du projet Campus IA. Et donc si ce n'est pas encore fait, vous pouvez répondre à l'enquête publique. Il y a actuellement plus de 750 signatures, bientôt 800. Et ça prend quelques minutes à faire sur le site registre-numérique/epu-campus-ia. Et vous pouvez aussi répondre à l'enquête publique en qualité d'organisation, de collectif, d'association, d'amicale de locataires, n'importe quoi. C'est une enquête qui certes est à Fouju, mais qui concerne l'ensemble de la France, puisque on est sur un projet qui est tellement démentiel. C'est un méga complexe de 11 data centers, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un projet d'ampleur nationale qui est porté directement par le président de la République. Et donc ça concerne vraiment l'ensemble de la France, quel que soit l'endroit où on habite. Ça pose vraiment en question les usages aussi du numérique et surtout les choix de société qu'on entend faire. Et là où on amène l'argent public et pour faire quoi et au bénéfice de qui. Juste peut-être pour vous donner un petit peu le programme détaillé de la journée, de l'après-midi, pardon. Donc on a le pique-nique partagé. N'hésitez pas à venir compléter aussi avec ce que les greniers des soulèvements nous ont cuisiné tout l'après-midi hier. Il y a des cakes sucrés et salés et des boissons si vous n'avez pas assez chaud. Et ensuite, et on pourra manger tout en appréciant une super fanfare qui est en train d'arriver actuellement. Et des prises de parole des différentes organisations qui se mobilisent contre ce projet de data center, puisqu'on a un projet qui réunit très largement avec des collectifs locaux, des collectifs un petit peu plus loin dans l'Île-de-France, des syndicats, des associations d'environnement. Voilà, donc c'est très très large. Et on a aussi d'autres invités qui viennent nous parler de lutte en lien direct avec les data centers OLIA ou qui sont d'autres luttes de Seine-et-Marne qui sont importantes aussi à aborder. On va commencer par la Confédération Paysanne.
Bonjour à toutes et à tous, bon appétit. Si la Confédération Paysanne est là aujourd'hui, c'est évidemment parce que par principe, on s'oppose à tout projet d'artificialisation des terres agricoles. Ils sont nombreux en Île-de-France et plus particulièrement dans les territoires reculés d'Île-de-France, probablement parce que les personnes qui ciblent ces territoires s'imaginent que personne ne viendra les défendre, que finalement ils ne touchent que peu de personnes. Et vous êtes la preuve aujourd'hui que ce n'est pas vrai et que des gens qui viennent de partout peuvent se mobiliser pour défendre ces terres agricoles. Nous, à la Confédération Paysanne, on est évidemment indignés par ce projet de campus IA et par la consommation complètement démesurée qu'il va faire des terres agricoles. Il faut quand même se représenter ce que ça fait, 90 hectares. 90 hectares, c'est l'équivalent de 180 terrains de football. Voilà, donc ce qu'on a derrière nous, fois 180. Ces terres, en plus, c'est des terres qui sont d'excellente qualité agronomique. C'est pas des mauvaises terres sur lesquelles on pourrait éventuellement que faire un peu du pâturage. C'est vraiment des terres très très productives. Et on considère, nous en tout cas, qu'elles seraient bien plus utiles à produire de la nourriture qui pourrait être vendue en circuit court, nourrir la population locale, nourrir les franciliens, plutôt que de partir à l'artificialisation, avec tous les enjeux que ça implique aussi, au-delà du fait qu'on ne peut plus produire sur ces terres agricoles, elles vont aussi perdre toute leur qualité écosystémique. Donc toute l'infiltration typiquement de l'eau à la nappe qui est en dessous va être bouleversée par ce projet, et dans les problématiques qu'on a actuellement de sécheresse les années les unes après les autres, on n'a aucune garantie en fait que ce projet ne va pas bouleverser durablement l'approvisionnement en eau des riverains et des agriculteurs du plateau. Ce qu'on nous rétorque ici, en fait, c'est que sacrifier un peu de terres agricoles pour pouvoir assurer la souveraineté numérique de la France, au fond, c'est pas si grave. Mais en fait, je pense que d'autres personnes que moi en reparlons, mais de quelle souveraineté numérique on parle exactement? Plus de la moitié des capitaux qui vont construire ce projet sont d'origine émiratie. 70%, merci, on me corrige. Donc 70% des capitaux sont d'origine émiratie. Donc à quel moment est-ce que la France est souveraine sur un projet comme celui-ci? Qu'est-ce que ça implique comme accord en sous-main entre les Émirats et nous? Qu'est-ce qu'on accepte de leur vendre? Qu'est-ce qu'on accepte de les laisser faire? C'est des très grosses problématiques, de géopolitique en fait qui se jouent là. C'est pas juste de la terre agricole qui disparaît. Pour résumer ça, on considère, nous en tout cas, que choisir une prétendue souveraineté numérique comme celle-ci, au détriment de la souveraineté alimentaire francilienne, c'est une aberration. C'est pas l'IA qui va nourrir la population. Merci.
Ken, des naturalistes des terres.
Et donc au sein du collectif, on pense que le vivant s'installe partout et qu'il suffit de prêter attention pour le voir. Si vous ouvrez les yeux, vos oreilles, votre nez, les forêts, les bords de rivières, les prairies, les friches, les villes et les villages, les haies, les fossés, les bords de route, les mares ou les sols sont des lieux habités. Les terres agricoles aussi sont habitées. Pour les êtres vivants qui habitent ces terres, ces lieux sont des refuges, des couloirs de circulation, des terres de reproduction, des réserves d'eau, des nourritures, des lieux de mémoire, des aires de jeu ou de rencontres. Ils sont végétales, animales, fongiques, bactériens, et ils tissent un réseau d'interdépendance sans lequel aucun territoire ne peut rester habitable. Ce n'est pas une addition d'espèces, c'est l'ensemble des relations qu'ils tissent qui relient les vivants entre eux, humains compris, et la rendent la vie possible. Les terres agricoles sont concernées par le projet de Campus IA à Fouju ne sont donc pas un espace vide en attente de valorisation. D'ailleurs, l'étude d'impact du projet a identifié, malgré ses nombreuses lacunes et tricheries, 140 espèces végétales, 61 espèces d'oiseaux, 20 espèces de papillons, 7 espèces de libellules, 13 espèces d'orthoptères, 1 espèce de reptiles, 4 espèces d'amphibiens, 16 espèces de mammifères. Soit 262 espèces recensées, 262 formes de vie, 262 présences, 262 alliés. Et encore, cela sans compter les innombrables organismes invisibilisés. Bactéries, champignons, insectes du sol, microfaune, pollinisateurs, tout cela oublié, organismes jugés ordinaires par ignorance et désintérêt. Ces êtres vivent ici, ils se nourrissent ici, ils nichent ici, ils traversent ici, ils fabriquent ce territoire avec nous. Pourtant, les logiques d'aménagement actuelles, seules les espèces juridiquement protégées semblent avoir le droit d'exister. Tout le reste est négligeable. Le maître d'ouvrage, alors, s'appuie sur ces espèces pour mesurer les impacts de son projet et sur l'ensemble du vivant et proposer des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. Éviter, réduire, compenser, ou l'autorisation de détruire même ce qu'on a protégé. Oublions la recherche d'alternatives et les mesures d'évitement qui sont pour ce projet bien superflues. Penchons-nous un instant sur les mesures de réduction proposées. Les impacts liés à la destruction de 70 hectares de terres agricoles habitées seraient équilibrés par la seule création d'une centaine de mètres de haies et de quelques prairies éparses. Ces propositions ne sont pas en mesure d'effacer les dizaines d'hectares supprimés. Mais combien même serait-il légal ? Est-ce qu'il est souhaitable ? Le projet de Campus IA s'inscrit dans une logique plus large, celle d'une croissance numérique présentée comme inévitable. Toujours plus de données, toujours plus d'intelligence artificielle, toujours plus de centres de stockage, toujours plus d'électricité, toujours plus d'extraction minière, toujours moins de liens entre les êtres vivants. Tout cela repose sur l'exploitation intensive des ressources en France et ailleurs, extraction de métaux rares, destruction des sols, accaparement de l'eau, artificialisation des terres, consommation énergétique massive. Le numérique n'est pas immatériel. Il dépend de mines, de câbles, de centrales, de béton, de serveurs, de refroidissement industriel. Derrière chaque promesse technologique se cachent des territoires détruits, des ressources épuisées et des formes de vie sacrifiées. Alors le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir si nous sommes pour ou contre un Campus IA. La vraie question plus profonde serait plutôt comment nous voulons habiter ce territoire. Souhaitons-nous poursuivre un modèle fondé sur la bétonisation, l'accaparement des ressources et de la terre, la destruction progressive de la vie ? Ou voulons-nous défendre ce territoire pour qu'il soit habitable pour tous les vivants ? Un chiffre du CNRS annonce la couleur. 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. Triste illustration de la chute de la biodiversité globale. Alouette des champs, bruant proyer, busard Saint-Martin, caille des blés, perdigrise. Tous ces oiseaux ont été observés lors de l'étude d'impact et sont observés sans doute régulièrement par les gens qui habitent ici. Ils habitent toujours ici, ils trouvent dans ces champs de quoi se réfugier, se nourrir, se reproduire. Ils sont encore là et nous ne pouvons que vous encourager à aller à leur rencontre. Nous vous proposons cette possibilité dans l'après-midi avec deux balades naturalistes. Donnons-leur de l'espace, réduisons les pressions et leur santé s'améliorera. Si nous persistons, ils disparaîtront. L'habitabilité du territoire, le fait que les habitants puissent vivre dignement sur un espace cohérent, dépend de notre capacité à vivre avec eux et à réinventer les liens que nous tissons avec nos voisins non humains. Car l'humain ne disparaît pas dans cette réflexion. Nous faisons partie du tissu vivant,
Notre santé dépend des sols, notre alimentation dépend des pollinisateurs, notre eau dépend des zones humides, notre climat dépend des écosystèmes. Détruire le vivant, c'est aussi détruire les conditions de notre propre existence. Aujourd'hui, ce projet nous est présenté comme inévitable, il nous est imposé, mais rien n'oblige à accepter des aménagements décidés sans les habitants et contre les dynamiques du territoire. L'intelligence, elle est collective. Décidons ensemble, dans l'intérêt de tous, humains et non humains, de manière ajustée et sincère, de notre manière d'habiter ce territoire. C'est certain, il existe d'autres manières de vivre, d'autres manières de produire, d'autres manières de partager les ressources. À nous d'en parler, de les partager, de les inventer. Partout, des personnes s'organisent pour défendre les terres vivantes, des scientifiques alertent, des habitants résistent, il existe des forces vives. Des pratiques agroécologiques, des formes d'habitat sobres, des territoires qui restaurent les haies, les sols, les mares et les continuités écologiques, des réseaux qui favorisent la solidarité et l'entraide, des humains qui s'allient avec les autres humains. Parmi les naturalistes des terres, nous sommes tous persuadés que cette alliance peut apporter énormément aux luttes. Pour activer les consciences, ralentir le projet, imaginer des alternatives, restaurer la résilience du territoire, cela peut se traduire par de nombreux gestes. Le premier d'entre tous est d'ouvrir son esprit, de les laisser entrer dans notre quotidien, de les reconnaître comme des voisins et d'y prêter attention. On vous invite tous à répondre à l'enquête publique pour montrer le désaccord et qu'on est nombreux et qu'on ne les laissera pas faire. Merci.
Bonjour, moi je vais dire quelques mots pour l'Alliance écologique et sociale de l'Essonne. D'une part, ce projet, il impacte à la fois directement notre territoire, hein, à toutes les échelles géographiques, et sachant que l'Essonne a déjà plus d'une quarantaine de data centers existants ou en projet. Alors, nous avons fait une contribution, alors évidemment nous émettons un avis complètement défavorable, c'est évident. Je vais rappeler rapidement en fait les éléments et surtout de nuisances qui ont été déjà dites, mais sur lesquels je voudrais surtout insister. Alors, le projet Campus IA, ça a été dit, il est souvent qualifié de souverain et il va rester donc fermement, en tout cas contrôlé par le fonds émirati MGX, hein, et qui va disposer d'ailleurs de la plus grande part du capital, puisque c'est 70%, ça a été dit, et qui a été rapporté en particulier par l'Observatoire des multinationales. Quant à Mistral AI, il ne déposerait quant à lui que 1% du capital. Voilà. Alors, il y a eu une importante artificialisation des terres agricoles, hein, la Confédération Paysanne l'a bien rappelé, et je voudrais dire effectivement que, sachant que le SDRIF de la région Île-de-France, il prévoit que les centres de données soient implantés prioritairement sur des friches industrielles et non en extension urbaine. Voilà toute la contradiction. Ensuite, cette consommation d'énergie qui est absolument gigantesque, hein, qui consomme 1,4 gigawatts, c'est-à-dire autant qu'une centrale nucléaire du type EPR, et ça veut dire qu'il va consommer quand même autant d'électricité annuellement, c'est-à-dire 10,5 terawatt-heure, que 16% de la consommation d'électricité de toute l'Île-de-France, qui est de 65,4 TWh en 2024. Voilà. Ensuite, selon le dernier rapport de l'ADEME, si les tendances actuelles se poursuivent, la consommation des data centers en France, ils ont dit qu'actuellement de 10 TWh, elle devrait grimper à 37 TWh d'ici 2035. Mais ils n'avaient pas, en tout cas, intégré effectivement ce campus IA, qui est de 10,5 TWh, comme je le rappelle. Au regard des émissions de gaz à effet de serre, elles s'élèvent à un total de 28,5 mégatonnes de CO2 équivalent. dont la moitié d'ailleurs est due à la consommation du campus quotidiennement. Et ces émissions seraient donc 1600 fois plus importantes que l'activité agricole en cours actuellement. Ensuite, sur le système de refroidissement, comme la nappe phréatique, c'est-à-dire les calcaires de Champigny, elle ne suffit même plus aujourd'hui à alimenter la Seine-et-Marne en eau potable, eh bien le système de dry cooling s'est imposé au projet, c'est-à-dire refroidissement des serveurs par système réfrigérant plutôt qu'en puisant de l'eau de la nappe. Donc, 680 groupes froids vont être installés en toiture et qui vont utiliser le gaz réfrigérant, le R1234E2, qui était effectivement choisi pour son faible potentiel de réchauffement global, mais qui est source d'une part de gaz à effet de serre puissant, hein, c'est un pouvoir réchauffant près de 15 000 fois plus important que le CO2, et source de substances comme les PFAS, comme ça a été dit, et donc prenant un taux de fuite de 3%, près de 17 tonnes de PFAS vont être ainsi émis annuellement. Ensuite, sur la chaleur fatale, il faut dire qu'elle a été récupérée de façon anecdotique. Le total des besoins, qui sont encore très hypothétiques et qui ont été estimés, elle s'élèverait au grand total à 76 gigawattheures par an. C'est à consommer aux consommations annuelles du site de 10,5 terawattheures, c'est-à-dire soit des besoins énergétiques récupérables bien inférieurs à 1% de la chaleur fatale. Donc voilà ce qu'on veut récupérer aujourd'hui. Ensuite, l'incidence des groupes électrogènes sur la pollution de l'air et la pollution sonore. Il va y avoir donc 613 groupes électrogènes de secours qui vont être testés chaque mois et qui vont transformer donc de l'huile végétale hydrotraitée, le HVO, en électricité pour garantir une autonomie minimale de 48 heures. En fait, la puissance thermique nominale cumulée des groupes électrogènes va atteindre près de 5000 MWh, soit une capacité thermique de production équivalente à plus de la puissance totale du parc thermique de production d'électricité d'EDF en France métropolitaine. Quant aux émissions de polluants, c'est-à-dire les oxydes d'azote, les particules fines, le monoxyde de carbone ainsi que d'autres composés carboniques, également préjudiciables pour la qualité de l'air, alors que l'azote dépasse déjà les seuils de l'OMS pour les particules fines. Campus IA va générer également des nuisances sonores permanentes qu'il ne faut pas négliger, dues aux nombreuses sources de bruit, groupes froids, groupes électrogènes, centrales de traitement d'air, etc., et qui vont être aggravées lors du fonctionnement des groupes électrogènes. Ensuite, et je voudrais insister surtout là-dessus, sur le stockage de l'énorme quantité de carburant. En effet, il y a un important stockage de biocarburant HVO qui, pour le fonctionnement des groupes électrogènes de secours. Près de 16 000 tonnes de HVO sont stockées dans 216 cuves enterrées et 613 cuves aériennes. Enfin, en cas de pénurie ou de défaut d'approvisionnement en HVO, il va être remplacé par du fioul domestique pour un total de près de 18 000 tonnes. Et aujourd'hui, pour passer en dessous du seuil Céveso, qu'a fait le projet? Eh bien, il fait une autorisation indépendante pour chacune, pour chacun des data centers, et pour ne pas dépasser ce seuil bas de Céveso qui est de 2500 tonnes. Alors que l'ensemble des cuves sont situées sur un même site du projet Campus IA. Et c'est pour ça qu'il faut demander que l'administration s'oppose à la pratique aujourd'hui frauduleuse qui consiste à séparer artificiellement une installation en multiples entités qui sont prétendument indépendantes et dans le but justement de passer en dessous des seuils qui auraient justifié un classement en site Céveso. Je pense qu'il faut réfléchir à ça au niveau juridique. Enfin, et je dirais que l'Alliance écologique et sociale de l'Essonne réclame d'autre part un moratoire pour les grosses infrastructures data center comme Hyperscale, ainsi qu'un véritable débat public sur les besoins en data center en Ile-de-France et ailleurs, et qui inclut leur planification géographique et temporelle. Merci à vous.
Forces on a those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of, killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 And now you do what they told ya. 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 Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge. Those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. What they told ya. And now you do 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 what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya.
Sur Radio Libertaire 89.4 dans Les Amis d'Orwell. Cette semaine, on évoque le chantier Campus IA, un projet d'usine informatique qui est en passe d'être imposé aux populations. Ça se passe à Fougeux, en Seine-et-Marne. Et sur place, il y avait une journée de mobilisation dimanche dernier, 24 mai 2026. La parole à Valentin Martini. Alors, il connaît bien le sujet pour s'y être penché dans le journal Le Chiffon, surtout le numéro 20 qui est sorti au mois de mars. Alors, il remonte quelques décennies plus tôt pour mieux comprendre les enjeux de cette lame de fond qu'est l'informatique profonde et l'intelligence artificielle.
Ce projet de zone industrielle informatique dite Campus IA à Fougeux, les promoteurs nous parlent de 1000 emplois créés pour un investissement total envisagé de 50 milliards d'euros. Alors bon, déjà les 1000 emplois, quand on regarde ce qui est advenu des promesses sur les autres projets de data center ailleurs, bon, on peut diviser ça par deux facilement. Donc 500 emplois créés, puis il faut voir quels emplois, mais bon, c'est, je dirais que c'est assez accessoire. 500 emplois créés pour 50 milliards d'euros d'investissement, il faut être le plus nul, mais véritablement le plus nullissime des économistes pour prétendre que c'est une allocation optimale des ressources. Donc là, si vous voulez, on est dans de la spéculation sur un objet de spéculation financière avec des collusions entre la big tech américaine, les pétrodollars des monarchies pétrogazières du Golfe et puis quelques acteurs comme la Macronie qui se dit « Tiens, puisqu'on a une électricité, plutôt abondante par rapport à ailleurs, par rapport aux États-Unis où le réseau électrique est vieillissant, n'a pas les capacités du tout pour suivre. Donc c'est un petit peu un espèce de... En fait, il faut s'imaginer que la France est en train de devenir une colonie électronumérique. On a cette électricité relativement stable et puissante et c'est une ressource. J'en étais où Oui, voilà. Alors, donc, on est sur un projet de spéculation financière qui n'intéresse que les acteurs de la big tech américaine qui sont en train de chercher des relais de croissance, parce que l'économie américaine est complètement atone. Ils ont besoin...
Oui, c'est des marchés, en fait.
Exactement, c'est juste un relais de croissance, quoi. C'est essayer de refabriquer de la croissance avec n'importe quel objet, sauf qu'ils se sont rendus compte un peu trop tard, comme dit la fable, que sans une énergie extrêmement abondante, il était illusoire d'avoir la puissance de calcul nécessaire au développement de leur modèle d'IA. Donc là, ils sont en train d'essayer d'accélérer la construction d'immenses zones industrielles informatiques remplies de serveurs, de superordinateurs, mais qui ont besoin d'électricité pour fonctionner. Et on ne parle pas de petites capacités électriques. À Fuju, c'est une puissance totale envisagée de 1,4 gigawatts. Donc c'est 3 à 4 fois la consommation d'électricité potentielle de la plus grosse usine énergivore française qui recycle de l'aluminium. Voilà, juste pour un énorme hangar rempli de serveurs qui fera on ne sait pas quoi dedans. Vous voyez le délire. Juste à côté, il y a Montreux, Foyonne, où ils font un projet d'une puissance totale qui fait la moitié de Fuju, ce qui reste absolument gigantesque. Il faut bien se rendre compte que les projets de data center ou de centrale informatique, moi j'aime bien dire, en France, en l'espace de 4 ans, c'est passé d'une puissance moyenne de 10 MW à 100 MW. Et puis là, vous voyez, il y a des projets qui atteignent le gigawatt. Donc là, c'est un changement d'échelle phénoménal à une vitesse absolument délirante. Et donc, on peut pas utiliser le même terme pour les data centers d'hier qui consomment relativement peu d'électricité et ces énormes zones industrielles informatiques qui vont absorber autant que des hauts fourneaux. Pour faire quoi, on ne sait toujours pas. Voilà. Et donc, voilà, dans ce petit coin de Seine-et-Marne, eh bien, finalement, on est à la confluence d'intérêts économiques et géopolitiques américains, de recyclage des pétrodollars des monarchies pétrogazières du Golfe et puis... l'idéologie de la Macronie qui voudrait transformer la France en zone optimale d'investissement en transformant une électricité soi-disant abondante en valeur économique, voilà, dans cette logique spéculative de on a de l'électricité, on va la transformer en intelligence qu'on revendra. Bon, bah, vu la répartition du capital, déjà, je suis pas sûr que ça reste beaucoup en France. Enfin, bref. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que le réseau électrique français est un bien national. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, c'est pas la question. C'est le réseau électrique français. Est un bien national. Il a été construit avec l'argent des Français. Qu'on soit d'accord ou pas, encore une fois, c'est pas la question. Et c'est donc un bien national qui doit bénéficier à chacune, chacun. Or là, on se retrouve avec des acteurs qui, pour construire leurs énormes zones industrielles informatiques, les data centers, veulent réserver sur le réseau des énormes capacités électriques. Ce qui pose un gros, gros problème pour RTE, le gestionnaire du réseau, puisque qui doit du coup réserver de l'électricité là, là, là et là. Mais vous imaginez bien qu'une fois qu'il a réservé de l'électricité là, là et là et là, ça peut pas aller à d'autres usages. Or, je rappelle, c'est pour ça que je fais ce petit rappel historique, qu'au départ, le parc nucléaire français, il a été surdimensionné parce qu'on pensait qu'on allait électrifier énormément d'usages. Vous voyez, donc la transition de l'électrification, ça a 50 ans. Hein. C'était déjà dans le projet MESMER d'indépendance énergétique. Donc quand ils nous disent la transition avance, non, elle a 50 ans de retard, on l'a toujours pas faite. Il y avait énormément de capacité électrique qui a été mise sur le réseau avec toutes ces centrales parce qu'on voulait électrifier notamment le chauffage. Le chauffage, ce n'est toujours pas fait. L'électrification du chauffage en France, il y a encore plein de foyers, des millions qui se chauffent au fuel ou au gaz. Donc ça me paraît un petit peu prioritaire, ce projet qui a 50 ans, si on parle de décarbonation, etc. Dans les autres usages, il y a les transports. Hein, on nous parle des véhicules électriques, etc. Vous imaginez bien que quand la puissance électrique est utilisée là, par l'intelligence artificielle, l'informatique, etc., elle ne peut pas l'être ailleurs. On peut aussi dire qu'aujourd'hui, l'excès de production sur le territoire français d'électricité, qui n'est pas consommée sur le territoire, c'est pas très grave en fait, elle peut partir, elle est exportée en Allemagne, et ça permet d'éviter de faire tourner les centrales à charbon outre-Rhin. C'est pas délirant non plus comme usage, c'est pas complètement délirant. Le seul problème pour les promoteurs de la super informatique, de l'IA, etc., c'est que ça fait pas assez d'argent pour eux. Et donc il faut réserver ces capacités électriques au développement de l'industrie numérique basée complètement aux États-Unis et aux Émirats, par exemple.
Bonjour à tous.
Est-ce que je peux raconter l'histoire des bannis ?
Alors, sur le plan, on va dire, physique, technique. Pourquoi ce projet de zone industrielle informatique appelé Campus IA veut être implanté à Fougeux, ici en Seine-et-Marne, dans un territoire complètement rural, agricole? Pour avoir des énormes data centers comme ça, il y a trois conditions. La première condition qu'on peut plus avoir, disons, dans la petite couronne, c'est du foncier. Accessible et pas cher. Donc déjà les zones rurales ou périurbaines ou en déprise industrielle ou agricole d'ailleurs, ça déjà c'est intéressant. Effectivement, si en plus on tombe sur des petits villages où il va y avoir très peu d'opposition locale et aussi c'est facile de faire pas de graisser la patte parce qu'on comprend l'intérêt de certains à accepter de l'argent pour des équipements locaux. Mais disons que c'est quand même plus facile de faire un tout petit chèque conçu comme un petit cadeau de compensation face aux éventuelles nuisances. Et puis de toute façon, bon, c'est facile d'embarquer des territoires où il n'y a peut-être pas beaucoup d'activités économiques dans des espèces de projets de science-fiction comme ça. Voilà, ça peut être rapidement enthousiasmant. En fait, ce que je veux dire, c'est que Fougeux a été choisi parce que c'est à côté d'une ligne à haute tension. Et c'est à côté de la fibre optique qui court le long de l'autoroute. Donc c'est un lieu qui est effectivement une mine d'or qui existe peut-être nulle part dans le monde, d'avoir cette congruence, cette conjonction de facteurs entre une ligne à très haute tension et la fibre optique qui passe dans un même endroit soi-disant disponible à Fougeux. Et donc ça, c'est des caractéristiques, on va dire, plus techniques ou logistiques, quoi, pour le projet. Après, évidemment, il y a le fait que comme on est dans une zone rurale faiblement peuplée par rapport au reste d'autres agglomérations, c'est plus facile de convaincre, persuader, graisser la patte, etc. D'enthousiasmer des élus ou des acteurs du territoire autour d'un projet de développement économique, quel qu'il soit. Qu'est-ce que je voulais dire sur le parallèle avec Bure ? Oui, alors si, sur le parallèle, effectivement, donc il y a ces zones, disons, pas très densément peuplées, donc ça va être peut-être plus facile d'implanter des énormes projets dans ces endroits-là qui sont faiblement peuplés, de vaincre les irrésistibles réfractaires qui vivent sur le territoire, même s'ils sont pas d'accord. Mais je voudrais dire un truc qui est quelque chose de commun, mais qui est peut-être plus perceptible à Bure, beaucoup plus qu'ici à Fougeux. C'est que c'est pas un problème micro-local, hyper-local. C'est pas juste évidemment, les habitants de Bure ou de Fougeux sont les premiers concernés par les nuisances locales. Ça, c'est certain. Mais ce sont des projets d'aménagement qui concernent au minimum la France. Je veux dire, quand on parle de l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est même plus que la France. De manière évidente, ça concerne le monde. C'est vraiment un projet d'aménagement qui devrait engager un débat international. Bon, là, je rêve, évidemment. Je dors, je suis debout, et je dors.
Tu dors éveillé.
J'en perds mon français. Et à Fougeux, de la même manière, enfin, pas de la même manière, mais disons, le débat a été cadré comme s'il s'agissait d'un tout petit problème hyper local qui ne concerne que les habitants de Fougeux et à la limite les 3-4 communes autour. Non, on l'a dit, vu l'électricité qu'on projette de faire avaler par cette énorme zone industrielle informatique, on parle de à minima un réacteur nucléaire qui viendrait alimenter ce gros machin. Pardon, mais ça concerne tout le territoire, parce que l'électricité, encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est un bien national, c'est un bien commun. L'implantation de la zone industrielle informatique géante Campus IA à Fougeux, c'est pas quelque chose qui concerne que les habitants du coin. Évidemment, ce sont les premiers impactés par les nuisances. De toutes sortes, qu'il s'agisse déjà de la vue en fait, hein, parce qu'en général quand on habite dans un milieu rural, c'est parce qu'on a envie d'être dans un milieu rural, pas en face d'une énorme usine remplie de serveurs qui dégage en plus de la chaleur, qui a priori va être réfrigérée avec des liquides de synthèse qui vont relarguer des PFAS dans l'eau, enfin bon, voilà, on parle, je sais plus, c'était combien, 15 tonnes, un truc comme ça, mais enfin bon, voilà, c'est évidemment les premiers concernés par les nuisances de cet énorme projet industriel, mais vu l'électricité, les volumes d'électricité parfaitement délirants qu'on veut pomper à Fougeux, et puis juste à côté aussi à Montreux-Foyonne, là, rien que sur ce petit territoire dans, je sais plus, 25 km, on va dire un cercle de 25 km, il y a déjà 2 gigawatts de puissance qui seraient réservés à deux énormes zones industrielles informatiques. Ces 2 gigas, une fois qu'ils sont réservés, ils n'iront pas à d'autres usages en fait. Hein. Étant donné que le réseau électrique et l'électricité sont des biens nationaux, je le répète, n'importe quel habitant de la France a le même droit d'accès à la production nationale d'électricité que ces gens qui voudraient pomper tout ça, quoi. C'est quand même délirant, ces volumes d'électricité. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ça ne se passe pas que en Île-de-France. Les projets pullulent à peu près dans toutes les régions. Donc, par exemple, en Sud-Essonne, il y a un gros data center qui est déjà construit pour la première tranche, je crois, par une société qui s'appelle Éclairion, et qui va bénéficier majoritairement à Mistral AI, je crois. Éclairion projette dans deux autres coins de France des data centers encore plus gros. Je crois que c'est 400 MW par-ci, 200 MW par-là. Alors souvent, on va dire, mais on met ça sur des anciennes friches industrielles ou sur le site d'anciennes centrales thermiques EDF. Ça ne change pas la question de cette électricité qui va être réservée à l'industrie numérique
Pour quels usages on ne les connaît pas du tout intégralement. Et alors pour l'IA, moi j'ai tendance à dire qu'en fait ça ne correspond absolument pas aux besoins réels de la population, c'est-à-dire c'est pas l'IA qui va nous nourrir, c'est pas l'IA qui va mettre des enseignants à l'école, c'est pas l'IA qui va construire des logements abordables. Au contraire, on est sur un phénomène de spéculation immobilière parce que les acteurs de l'immobilier en Île-de-France ont compris que entasser des bureaux vides ça servait à rien et que là on était vraiment dans une crise de surproduction. Donc il y a beaucoup d'acteurs de l'immobilier, mais vraiment des pure players comme on dit, de l'immobilier qui se recyclent dans le data center.
Un nouveau marché,
relais de croissance pour le bâtiment qui est un petit peu en berne parce qu'effectivement on construit pas au même rythme qu'avant. Et bon bah voilà, même s'il y a le Grand Paris Express qui remue des quantités de terre absolument délirantes, même s'il y a le canal Nord-Seine-Europe, etc., ces gros ouvrages qui sont juste inédit hein, dans l'histoire. Pour les projets d'aménagement de transport, le Grand Paris Express est une première européenne, je crois. Le canal Nord-Seine-Europe, c'est pareil. Donc ça suffit pas. Non, il faut encore construire pour que le bâtiment continue à tourner, quoi. Et donc, il y a un déversement où, disons, on cherche des relais de croissance dans le bâtiment du côté des data centers. Et là encore, c'est plusieurs phénomènes spéculatifs qui se croisent. Il y a les intérêts de l'industrie numérique qui se croisent avec celle de l'immobilier. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que c'est une question, un projet qui concerne absolument la nation. Donc, a priori, nos représentants. Les élus, pas seulement locaux, hein. Là on parle de choses qui devraient se passer plutôt au Parlement. Or il n'y a eu absolument aucune discussion sérieuse. Ça a été annoncé en majesté par Jupiter himself. D'ailleurs il a refait une annonce au sommet Choose France en mai 2025. C'est symbolique, c'était au château de Versailles. Donc sa majesté parle au reste du territoire et annonce qu'il y aura donc cette zone industrielle informatique géante qui va avaler potentiellement 1,4 en puissance totale vous aurez 1,4 gigawatt, donc avaler un ou plusieurs réacteurs nucléaires pour on ne sait pas quoi, au bénéfice de qui on commence à avoir une bonne idée vu la composition des capitaux. Donc comme on disait tout à l'heure, 70% de la société Campus IA est détenu par les Émirats Arabes Unis, le pouvoir émirati, et qui est très lié avec la big tech américaine et l'administration Trump. Donc, vous voyez, en termes de souveraineté ou de retombées pour la France, non, la France est simplement en train d'être transformée en colonie électronumérique par la Macronie, et puis ses successeurs, hein, c'est pas que lui. Et voilà comment cet argent des pétromonarchies, ou en tout cas des énergies fossiles, de cette vieille manne qui nous précipite vers le chaos climatique, eh bien, se transmute. C'est de l'alchimie, en fait, hein, si vous voulez, ce qu'ils sont en train de proposer. Ils nous font croire qu'ils transforment le plomb en or, mais ça reste des pétrodollars qui se transforment peut-être en argent. C'est à voir, hein, parce que pour l'instant, c'est une belle bulle. Qui peut exploser. Donc on va peut-être avoir du plomb qui reste du plomb, sans parler de notre éminent sénateur. Et je pense que avec autant de ressources, quelles qu'elles soient financières, humaines, intellectuelles, agricoles, électriques, on peut faire mille fois mieux. Encore une fois, franchement, quand on regarde ce projet, c'est... Ah ben là, on pourrait traduire IA par inefficacité abyssale. 50 milliards d'euros d'investissement au total pour peut-être 500 emplois. C'est nul. C'est nul.
De l'Inter-Orga contre Campus IA, c'est-à-dire un regroupement d'associations et de collectifs qui s'opposent au projet Campus IA, qui est un projet de 11 data centers implantés à Fougeux, en Seine-et-Marne.
Un des arguments aussi par rapport à cette usine informatique, qu'il faut dire maintenant, c'était aussi qu'il y a un projet de prison et que dans les bienfaits, c'était qu'il y allait avoir une récupération de chaleur pour chauffer la prison qui va se construire à côté.
C'est tout à fait vrai, ça fait partie des arguments qui sont annoncés par les porteurs de projets. Le cynisme de cette démarche va même plus loin, puisque certaines personnes donc du coin nous ont dit que la prison pourrait fournir les employés nécessaires pour faire tourner le data center et qu'on pourrait donc les employer pendant qu'ils seraient en prison pour assurer le fonctionnement du data center. Donc nous, évidemment, on est contre et la prison et le data center, qui représentent deux modes tout à fait similaire de contrôle et auquel on s'oppose. Et en particulier, on est tout à fait solidaire de la lutte contre la prison de Crisnoy, qui elle existe depuis bien plus longtemps, puisque c'est un projet plus ancien que Campus IA, auquel le maire s'oppose, auquel de nombreux habitants et habitantes de Crisnoy s'opposent depuis très longtemps. Voilà, donc on est évidemment en soutien de la lutte contre la prison de Crisnoy, dont je rappelle qu'elle serait située littéralement en face du projet de data center, de l'autre côté de la route qui a été créée spécifiquement pour desservir ces deux infrastructures. Donc on est sur une logique vraiment liée. Les projets eux-mêmes ne sont pas nécessairement en lien dans la mesure où le projet de prison il existait avant. Il faisait partie d'un plan de construction de places supplémentaires. En revanche, là où nous, on y voit des liens, c'est qu'on considère que les prisons et les data centers sont des institutions de contrôle et de surveillance. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la surveillance et le contrôle par les données, qui sont des données dont on est dépossédé, puisque le contrôle de ces données est confié à des multinationales, principalement étrangères, qui en font des usages irresponsables, à un État qui est incapable de garantir la souveraineté de nos données. Et donc il y a évidemment un grand lien entre l'IA et les questions anticarcérales, dans la mesure où l'IA, qui sera donc alimentée par le data center de Fougeux, servira également à surveiller via des caméras de surveillance, via des algorithmes qui utiliseront l'intelligence artificielle pour de la reconnaissance faciale notamment. Et donc nous, on s'oppose à cette logique de contrôle qui nous dépossède de notre liberté, qui nous dépossède de nos libertés les plus fondamentales. Et donc évidemment, il y a une logique de répression qui s'abat principalement sur des populations marginalisées. C'est ces populations qui sont visées en premier par l'appareil répressif et qui sont parfois les plus criminalisées. C'est aussi celles qui sont le plus surveillées par l'intelligence artificielle. Et donc on y voit, entre guillemets, une double logique de contrôle et de contrôle sur une partie de la population, voilà, des personnes racisées, des personnes issues de l'immigration en particulier.
D'accord, c'est dans ce sens-là que tu disais... je ne sais plus quelle était ton expression. Ah oui, la prison va alimenter le data center ou inversement, c'est ça ?
Alors ça, c'est une autre logique. Il y a l'idée des liens qui sont créés sur le territoire dans cette zone d'aménagement qui a été conçue depuis longtemps comme un projet d'urbanisation. Et désormais, ils essayent de dire qu'ils utiliseront l'énergie, donc la chaleur fatale, donc l'énergie relâchée et dégagée par le data center pour alimenter la prison en chaleur. Ce qui est évidemment une utilisation minime au regard de la consommation électrique du data center dans son ensemble, qui ne servira que pendant quelques mois de l'année où la prison sera chauffée. Il y a eu des annonces comme quoi la chaleur fatale serait également réutilisée pour d'autres usages, mais il n'y a absolument aucune garantie technique. La prison, c'est le seul édifice qui pourrait bénéficier de ce système-là. Et évidemment, c'est un argument qui vise à nous faire oublier les nuisances multiples et les conséquences énormes de ce projet. Voilà.
En gros, tu nous dis que c'est un prétexte de l'administration, ou en tout cas, c'est un moyen que l'administration a trouvé pour donner plus d'efficacité à son projet, c'est ça ?
Oui, moi, c'est ce que je pense. Je pense que ce territoire de Seine-et-Marne, il est sacrifié pour de multiples objectifs. Il y a déjà eu de la recherche de gaz de schiste dans la région. Il y a tout un tas d'infrastructures, notamment une décharge à proximité immédiate. Donc, on cumule, en fait, tout un tas d'infrastructures considérées comme néfastes ou nuisibles qu'on relègue dans une campagne. Campagne qui aurait été vidée au préalable par un discours politique qui prétend qu'en fait, il n'y aurait pas d'habitants sur cet endroit, que les gens ne seraient pas impactés et qu'on peut donc y mettre nos prisonniers, nos serveurs, et nos déchets dans une même logique de relégation et de sacrifice des territoires. Et nous, on s'y oppose parce que les besoins que servent les data centers, c'est des besoins de multimilliardaires et ce ne sont absolument pas les besoins des habitants et des habitantes qui seront exposés aux nuisances et aux impacts du data center.
Quelles seraient potentiellement les alternatives
Écoutez, je reviens d'une merveilleuse discussion collective il y a à peine une heure où dans l'herbe on s'est assis en groupe et on a examiné cette question attentivement. Alors il n'y a évidemment pas de réponse toute faite, mais on a parlé de la possibilité de réutiliser ces terres agricoles qui sont des terres fertiles pour garantir notre souveraineté alimentaire avec évidemment un autre modèle d'agriculture qui pourrait être mis en place sur ces terres qui sont très fertiles. On a parlé évidemment de l'utilisation des friches industrielles sur laquelle de nombreux data centers, pas celui-ci mais de nombreux autres, sont en train d'être construits. L'utilisation de ces friches pourrait être faite pour construire des lieux d'accueil, de solidarité, d'action culturelle. Donc il y a évidemment énormément de choses à faire. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est un projet à 50 milliards. Donc si ces 50 milliards étaient investis ailleurs, on pourrait créer des projets alternatifs bien au-delà des 90 hectares du projet. On aurait suffisamment d'argent pour réinvestir dans des services publics qui fonctionnent et qui sont basés sur l'humain et pas sur l'automatisation des tâches. Donc il y aurait évidemment des usages très nombreux qu'on pourrait faire avec tout cet argent. Et nous, c'est un petit peu ce dont on a discuté en groupe cet après-midi. Vous pouvez retrouver un certain nombre de nos communications sur les différentes associations et collectifs qui nous soutiennent. C'est le cas, par exemple, de FNE 77, de la LPO, également dans le 77, de la Confédération Paysanne, surtout en Ile-de-France, de Extinction Rébellion et des Soulèvements de la Terre, où vous pourrez retrouver nos communications. Je vous invite également à suivre le lien linktree.com/stopcampusia, qui est un lien qui regroupe l'intégralité des ressources qu'on met à disposition avec des tracts, des argumentaires, des informations sur le projet, nos prochains rendez-vous et différentes manières de nous contacter. Donc voilà, je vous invite à suivre ce lien Linktree.
Qui devait prendre la parole au nom de la coordination antinucléaire Île-de-France, si la personne peut venir ?
La coordination antinucléaire, comme son nom l'indique, coordonne différents groupes qui ne sont pas forcément tous sur les mêmes sensibilités. Mais d'une manière générale, on essaye de travailler ensemble et vous pouvez nous rejoindre. On se réunit à Paris une fois par mois. Vous pouvez nous faire signe. Voilà. Pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui pour lutter contre ce projet de data center? C'est parce que, en fait, l'évidence même, c'est qu'effectivement, la consommation électrique démentielle de ce genre d'infrastructure va se traduire par une relance du nucléaire. Bon, la relance du nucléaire, vous allez me dire, ça y est, c'est acté, etc. Sauf que la relance du nucléaire, elle est pleine de ratés. Elle n'est pas forcément, faut pas la penser comme forcément une chose acquise. Mais ce qui est certain, c'est que la numérisation tous azimuts et la multiplication des data centers va forcément donner de l'élan supplémentaire, je veux dire, à ceux qui veulent pousser pour la relance du nucléaire. D'ailleurs, c'est pas par hasard que la France est particulièrement choyée par les investisseurs qui mettent de l'argent dans les data centers, parce qu'ils sont convaincus que la France a les moyens, du fait de sa forte production nucléaire, de fournir l'électricité dont ils auront besoin. Juste un petit chiffre qui n'a peut-être pas été cité. Avant même l'explosion de l'IA, de cette espèce de folie de l'IA là, qu'on observe en ce moment, les prévisions les plus pessimistes disaient que, en fait, 51% de l'électricité mondiale serait destinée à l'informatisation dans son ensemble. C'est énorme. Vous vous rendez compte que, je veux dire, on est dans une course, une fuite en avant. Bon, alors, le nucléaire, moi, je vais pas vous raconter toutes les raisons qu'on a de se battre contre en très rapide. Il y a des choses que vous savez tous. Il y a la question des déchets qui n'a jamais été réglée, qu'on prétend aujourd'hui enfouir, et donc avec toutes les menaces que ça va faire peser en contamination aussi bien de l'air que de la nappe phréatique qui s'étend en fait jusqu'en région parisienne. Bon, si vous cherchez sur ce projet chez Géo, vous verrez toutes les informations. C'est vraiment c'est très grave ce qui se passe. Et la question des déchets, c'est pas seulement Cigéo, il y a tous les déchets qui sont empilés dans les centrales et à La Hague. Enfin, c'est toute une affaire. Il y a évidemment le risque d'accident qui s'aggrave avec le temps, parce que en fait, comme le prétendu nouveau nucléaire ne suit pas pour l'instant, ben en fait, ce qu'il se prépare à faire, surtout, c'est à prolonger les vieilles centrales. Hein, et les vieilles centrales, eh ben, elles ont évidemment des problèmes d'usure bien plus marqués. Donc, effectivement, le risque d'accident se multiplie et il faut en prendre la mesure. On oublie trop souvent ce que ça veut dire. Bon, vous savez, il y a eu les 40 ans de Tchernobyl. S'il y en a qui ont suivi un peu tout ce qui s'est raconté autour, ça peut donner une idée de ce que ça veut dire un accident nucléaire. Bon. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la contamination. Tous ces projets ne sont pas forcément gagnés. Il ne faut pas raisonner comme si c'était. Ah oui. Il ne faut pas raisonner comme si tout ça était déjà. Je veux dire, ils bâtissent des projets qui ont l'air tout à fait rationnels. Ils mettent tout un tas d'ingénieurs, de bureaucrates au service de tout ça. Mais c'est bourré de contradictions. Hein, quand je parle de mise au service de l'État. Au service de logique du privé, on le voit dans le nucléaire, notamment avec le développement de ce qu'ils voudraient, au supposé développement des petits réacteurs modulaires appelés SMR. Il y a un projet à côté de Nogent-sur-Seine, dans une commune qui s'appelle Marnay, et là, c'est une multinationale que certains prétendent être une start-up, qui est en fait une multinationale qui s'appelle Nucléo, qui a investi énormément d'argent pour construire un SMR selon des méthodes, enfin je passe sur les détails, mais c'est des méthodes tout à fait nouvelles qu'ils ne maîtrisent pas, qui sont extrêmement dangereuses, hein, en particulier, je veux dire, ils vont réutiliser du plutonium qu'il va falloir transporter sur place, enfin tout un tas de problèmes. Oui, pardon. Voilà. Bon. Et ça, je veux dire, l'État est en train de leur mettre tous les outils pour permettre de faire ça, alors que je veux dire, c'est loin d'être acquis, ce n'est pas dit que ça va fonctionner. L'EPR, il ne fonctionne, il a mis un temps fou à fonctionner, et il fonctionne encore très mal. Je veux dire, il y a une perte de compétences, il y a tout un tas de problèmes. Donc, je veux dire, faut pas, dans la lutte, il ne faut pas partir perdant, quoi. Je veux dire, il faut se dire qu'il y a des contradictions aussi en face. Et puis une dernière chose, pour faire très, très court, je trouve qu'entre la logique de la numérisation tous azimuts, dont les data centers sont une des expressions, et la logique de développement du nucléaire, il y a quelque chose de commun, c'est cette espèce de folie qui consiste à penser qu'on peut disposer de l'énergie illimitée. Et ça, je veux dire, c'est ancré dans les têtes, et c'est vraiment un truc contre lequel il faut pouvoir se battre. Enfin, c'est de l'ordre d'une bataille d'idées, si on veut, hein. Et je pense que se battre pour réaffirmer l'importance de nos besoins réels, hein, d'en parler collectivement, ou les frontières de nos besoins contre les besoins du capital, eh ben c'est une bataille qu'il faut mener aujourd'hui, en même temps que des batailles tout à fait concrètes comme celle contre ce data center. We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 dans Les Amis d'Orwell. On est toujours à Fougues, en Seine-et-Marne, à l'occasion d'un rassemblement qui a eu lieu dimanche 24 mai contre la grosse usine de serveurs qui prévoit de s'implanter sur des terres agricoles pour y installer une ferme à données gigantesque. On retourne un moment avec Valentin Martini du journal Le Chiffon pour évoquer notamment les fausses promesses économiques du projet Campus IA.
Ce projet de zone industrielle informatique dite Campus IA à Fougues, les promoteurs nous parlent de 1000 emplois créés pour un investissement total envisagé de 50 milliards d'euros. Alors, les 1000 emplois, quand on regarde ce qui est advenu des promesses sur les autres projets de data center ailleurs, bon, on peut diviser ça par deux facilement. Donc 500 emplois créés, puis il faut voir quels emplois, mais bon, je dirais que c'est assez accessoire. 500 emplois créés pour 50 milliards d'euros d'investissement, il faut être le plus nul, mais véritablement le plus nullissime des économistes pour prétendre que c'est une allocation optimale des ressources. Donc là, si vous voulez, on est dans de la spéculation sur un objet de spéculation financière avec des collusions entre la big tech américaine, les pétrodollars des monarchies pétrogazières du Golfe et puis quelques acteurs comme la Macronie qui se dit « Tiens, puisqu'on a une électricité plutôt abondante par rapport à ailleurs, par rapport aux États-Unis où le réseau électrique est vieillissant, n'a pas les capacités du tout pour suivre. Donc c'est un petit peu un espèce de... En fait, il faut s'imaginer que la France est en train de devenir une colonie électronumérique. On a cette électricité relativement stable et puissante et c'est une ressource. On est sur un projet de spéculation financière qui n'intéresse que les acteurs de la big tech américaine qui sont en train de chercher des relais de croissance parce que l'économie américaine est complètement atone. Ils ont besoin...
Oui, c'est des marchés en fait.
Exactement, c'est juste un relais de croissance, quoi. C'est essayer de refabriquer de la croissance avec n'importe quel objet. Sauf qu'ils se sont rendus compte un peu trop tard, comme dit la fable, que sans une énergie extrêmement abondante, il était illusoire d'avoir la puissance de calcul nécessaire au développement de leur modèle d'IA. Donc là, ils sont en train d'essayer d'accélérer la construction d'immenses zones industrielles informatiques remplies de serveurs, de superordinateurs, mais qui ont besoin d'électricité pour fonctionner. Et on ne parle pas de petites capacités électriques. À Fougues, c'est une puissance totale envisagée de 1,4 gigawatts. Donc c'est 3 à 4 fois la consommation d'électricité potentielle de la plus grosse usine énergivore française qui recycle de l'aluminium. Voilà, juste pour un énorme hangar rempli de serveurs qui fera on ne sait pas quoi dedans. Vous voyez le délire. Juste à côté, il y a Montreux, Foyonne, où ils font un projet d'une puissance totale qui fait la moitié de Fougues, ce qui reste absolument gigantesque. Il faut bien se rendre compte que les projets de data center ou de centrale informatique, moi j'aime bien dire, en France, en l'espace de 4 ans, c'est passé d'une puissance moyenne de 10 mégawatts à 100 mégawatts. Et puis là, vous voyez, il y a des projets qui atteignent le gigawatt. Donc là, c'est un changement d'échelle phénoménal à une vitesse absolument délirante. Et donc, on peut pas utiliser le même terme pour les data centers d'hier qui consomment relativement peu d'électricité et ces énormes zones industrielles informatiques qui vont absorber autant que des hauts fourneaux. Pour faire quoi, on ne sait toujours pas. Voilà. Et donc, dans ce petit coin de Seine-et-Marne, finalement, on est à la confluence d'intérêts économiques et géopolitiques américains, de recyclage des pétrodollars des monarchies pétrogazières du Golfe, et puis l'idéologie de la Macronie qui voudrait transformer la France en zone optimale d'investissement en transformant une électricité soi-disant abondante en valeur
économique, voilà, dans cette logique spéculative de on a de l'électricité, on va la transformer en intelligence qu'on revendra. Bon, bah, vu la répartition du capital, déjà, je suis pas sûr que ça reste beaucoup en France. Enfin bref. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que le réseau électrique français est un bien national. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, c'est pas la question. C'est le réseau électrique français est un bien national. Il a été construit avec l'argent des Français. Qu'on soit d'accord ou pas, encore une fois, c'est pas la question. Et c'est donc un bien national qui doit bénéficier à chacune, chacun. Or là, on se retrouve avec des acteurs qui, pour construire leurs énormes zones industrielles informatiques, les data centers, veulent réserver sur le réseau des énormes capacité électrique, ce qui pose un gros gros problème pour RTE, le gestionnaire du réseau, puisque le transporteur ou voilà, qui doit du coup réserver de l'électricité là et là. Mais vous imaginez bien qu'une fois qu'il a réservé de l'électricité là, ça peut pas aller à d'autres usages. Or, je rappelle, c'est pour ça que je fais ce petit rappel historique, qu'au départ, le parc nucléaire français, il a été surdimensionné parce qu'on pensait qu'on allait électrifier énormément d'usages. Vous voyez, donc la transition de l'électrification, ça a 50 ans. Hein. C'était déjà dans le projet Mesmer d'indépendance énergétique. Donc quand ils nous disent la transition avance, non, elle a 50 ans de retard, on l'a toujours pas faite. Il y avait énormément de capacité électrique qui a été mise sur le réseau avec toutes ces centrales parce qu'on voulait électrifier notamment le chauffage. Le chauffage, ce n'est toujours pas fait. L'électrification du chauffage en France, il y a encore plein de foyers, des millions qui se chauffent au fioul ou au gaz. Donc ça me paraît un petit peu prioritaire, ce projet qui a 50 ans, si on parle de décarbonation, etc. Dans les autres usages, il y a les transports. Hein, on nous parle des véhicules électriques, etc. Vous imaginez bien que quand la puissance électrique est utilisée là, par l'intelligence artificielle, l'informatique, etc., elle ne peut pas l'être ailleurs. On peut aussi dire qu'aujourd'hui, l'excès de production sur le territoire français d'électricité, qui n'est pas consommée sur le territoire, c'est pas très grave en fait, elle peut partir, elle est exportée en Allemagne, et ça permet d'éviter de faire tourner les centrales à charbon outre-Rhin. C'est pas délirant non plus comme usage, c'est pas complètement délirant. Le seul problème pour les promoteurs de la super informatique, de l'IA, etc., c'est que ça fait pas assez d'argent pour eux. Et donc il faut réserver ces capacités électriques au développement de l'industrie numérique basée complètement aux États-Unis et aux Émirats, par exemple. Alors, sur le plan, on va dire, physique, technique, pourquoi ce projet de zone industrielle informatique appelé Campus IA veut être implanté à Fougues, ici en Seine-et-Marne, dans un territoire complètement rural, agricole. Pour avoir des énormes data centers comme ça, il y a trois conditions. La première condition qu'on peut plus avoir, disons, dans la petite couronne, c'est du foncier. Accessible et pas cher. Donc déjà les zones rurales ou périurbaines ou en déprise industrielle ou agricole d'ailleurs, ça déjà c'est intéressant. Effectivement, si en plus on tombe sur des petits villages où il va y avoir très peu d'opposition locale et aussi c'est facile de faire pas de graisser la patte parce qu'on comprend l'intérêt de certains à accepter de l'argent pour des équipements locaux. Mais disons que c'est quand même plus facile de faire un tout petit chèque conçu comme un petit cadeau de compensation face aux éventuelles nuisances. Et puis de toute façon, bon, c'est facile d'embarquer des territoires où il y a peut-être pas beaucoup d'activités économiques dans des espèces de projets de science-fiction comme ça. Voilà, ça peut être rapidement enthousiasmant. En fait, ce que je veux dire, c'est que Fougues a été choisi parce que c'est à côté d'une ligne à haute tension et c'est à côté de la fibre optique qui court le long de l'autoroute. Donc c'est un lieu qui est effectivement une mine d'or qui existe peut-être nulle part dans le monde, d'avoir cette congruence, cette conjonction de facteurs entre une ligne à très haute tension et la fibre optique qui passe dans un même endroit soi-disant disponible à Fougues. Et donc ça, c'est des caractéristiques, on va dire, plus techniques ou logistiques quoi, pour le projet. Qu'est-ce que je voulais dire sur le parallèle avec Bure ? Sur le parallèle, effectivement, donc il y a ces zones, disons, pas très densément peuplée, donc ça va être peut-être plus facile d'implanter des énormes projets dans ces endroits-là qui sont faiblement peuplés, de vaincre les irrésistibles réfractaires qui vivent sur le territoire, même s'ils sont pas d'accord. Mais je voudrais dire un truc qui est quelque chose de commun, mais qui est peut-être plus perceptible à Bure, beaucoup plus qu'ici à Fougeux. C'est que c'est pas un problème micro-local, hyper-local. C'est pas juste évidemment, les habitants de Bure ou de Fougeux sont les premiers concernés par les nuisances locales. Ça, c'est certain. Mais ce sont des projets d'aménagement qui concernent au minimum la France. Je veux dire, quand on parle de l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est même plus que la France. De manière évidente, ça concerne le monde. C'est vraiment un projet d'aménagement qui devrait engager un débat international. Bon, là, je rêve, évidemment. Je dors, je suis debout, et je dors.
Tu dors éveillé.
J'en perds mon français. Et à Fougeux, de la même manière, enfin, pas de la même manière, mais disons, le débat a été cadré comme s'il s'agissait d'un tout petit problème hyper local qui ne concerne que les habitants de Fougeux et à la limite les 3-4 communes autour. Non, on l'a dit, vu l'électricité qu'on projette de faire avaler par cette énorme zone industrielle informatique, on parle de à minima un réacteur nucléaire qui viendrait alimenter ce gros machin. Pardon, mais ça concerne tout le territoire, parce que l'électricité, encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est un bien national, c'est un bien commun. L'implantation de la zone industrielle informatique géante Campus IA à Fougeux, c'est pas quelque chose qui concerne que les habitants du coin. Vu l'électricité, les volumes d'électricité parfaitement délirants qu'on veut pomper à Fougeux, et puis juste à côté aussi à Montreux-Foyonne. Là, rien que sur ce petit territoire dans, je sais plus, 25 km, on va dire un cercle de 25 km, il y a déjà 2 gigawatts de puissance qui seraient réservés à deux énormes zones industrielles informatiques. Ces 2 gigas, une fois qu'ils sont réservés, ils n'iront pas à d'autres usages, en fait, hein. Étant donné que le réseau électrique et l'électricité sont des biens nationaux, je le répète, n'importe quel habitant de la France a le même droit d'accès à la production nationale d'électricité que ces gens qui voudraient pomper tout ça, quoi. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ça ne se passe pas que en Île-de-France. Les projets pullulent à peu près dans toutes les régions. Donc, par exemple, en Sud-Essonne, il y a un gros data center qui est déjà construit pour la première tranche, je crois, par une société qui s'appelle Éclairion, et qui va bénéficier majoritairement à Mistral AI, je crois. Éclairion projette dans deux autres coins de France des data centers encore plus gros. Je crois que c'est 400 MW par-ci, 200 MW par-là. Alors souvent, on va dire, mais on met ça sur des anciennes friches industrielles ou sur le site d'anciennes centrales thermiques EDF. Ça ne change pas la question de cette électricité qui va être réservée à l'industrie numérique. Tout ça pour dire que c'est une question, un projet qui concerne absolument la nation. Donc a priori, nos représentants, les élus, pas seulement locaux, hein. Là on parle de choses qui devraient se passer plutôt au Parlement. Or il n'y a eu absolument aucune discussion sérieuse. Ça a été annoncé en majesté par Jupiter himself. D'ailleurs, il a refait une annonce au sommet Choose France en mai 2025. C'est symbolique, c'était au château de Versailles. Donc sa majesté parle au reste du territoire et annonce qu'il y aura donc cette zone industrielle informatique géante qui va avaler potentiellement 1,4 en puissance totale, vous aurez 1,4 gigawatt, donc avaler un ou plusieurs réacteurs nucléaires pour on ne sait pas quoi, au bénéfice de qui on commence à avoir une bonne idée vu la composition des capitaux. Donc comme on disait tout à l'heure, 70% de la société Campus IA est détenu par les Émirats Arabes Unis, le pouvoir émirati, et qui est très lié avec la big tech américaine et l'administration Trump. Donc, vous voyez, en termes de souveraineté ou de retombées pour la France, non, la France est simplement en train d'être transformée en colonie électronumérique par la Macronie. Et puis ses successeurs, hein, c'est pas que lui. Et je pense que avec autant de ressources, quelles qu'elles soient, qu'elles soient financières, humaines, intellectuelles, agricoles, électriques, on peut faire mille fois mieux. Encore une fois, franchement, quand on regarde ce projet, c'est... Ah ben là, on pourrait traduire IA par inefficacité abyssale. 50 milliards d'euros d'investissement au total pour peut-être 500 emplois. C'est nul. C'est nul.
Je vais faire le lien aussi avec une lutte locale, pas très loin, mais bon, la Seine-et-Marne, c'est quand même grand. Entre Montreux-Fontaine et Nogent-sur-Seine, donc un peu plus à l'ouest, il y a une grande zone humide, la plus grande zone humide d'Île-de-France, la Bassée. Et c'est bon ? Plus proche ? Vous m'entendez bien ? Ok. Et sur cette zone humide, il y a un projet de mise à grand gabarit de la Seine pour créer un grand canal pour faire naviguer des péniches beaucoup plus grandes que ce qui navigue actuellement. Donc il y a une lutte qui s'organise pour lutter contre ce projet de mise à grand gabarit de la Seine sur cette partie de zone humide protégée encore sur une partie. Et on vous donne rendez-vous le 6 juin à Jaune, à côté de Bray-sur-Seine, pour une après-midi assez similaire à celle-ci, avec quelques ateliers, donc un pique-nique partagé. On aura aussi un petit peu de musique et des ateliers sympathiques sur la Bassée. Voilà. Et en lien avec cette lutte, donc la Bassée, ça fait partie des soulèvements de la Seine, qui est une coordination de plusieurs luttes, dont le canal Seine-Nord-Europe, le méga-canal, qui organise un campement du 9 au 12 juillet, et cette fois c'est dans le nord de la France. Donc le canal Seine-Nord-Europe, on en a parlé tout à l'heure, c'est entre Compiègne et Aubencheul-en-Bac, je crois. Donc vraiment nord de la France, sur 107 km. Et il y a un campement donc organisé du 9 au 12 juillet. Voilà. Et ben, j'espère vous voir nombreux et nombreux.
L'accélération, l'innovation perpétuelle et ce chambardement, ce bouleversement perpétuel est invivable et inhumain. Il n'y a aucun projet politique, c'est-à-dire de société, d'activité, de vie ensemble qui tient avec ce truc-là. Donc, posons-nous ensemble, posons-nous les bonnes questions ensemble, comparons un petit peu comment on a envie de se projeter ensemble dans le futur. Et ça, c'est de la politique. Voilà, donc ça commence par parler avec ses voisins, sortir la tête de son ordiphone. Vous allez vous sentir physiquement et cognitivement, émotionnellement beaucoup mieux. Hein. Je parle en premier concerné, hein. Je suis pas le saint, l'homme parfait ou quoi. Hein. Vraiment, moi, je suis victime, comme tout le monde, des dépendances, de la toxicité de ces trucs, mais vraiment on se fait du bien en s'écartant le plus possible de ces engins et en retrouvant les plaisirs simples des pique-niques à côté de Fouju ou tout simplement juste en regardant les gens dans la rue et en considérant leur existence et en passant pas comme des zombies le nez sur le téléphone et en sentant comme des présences obstacles quand on marche sur le trottoir, le nez vissé sur le machin. Déjà, vous allez vous faire du bien et vous allez faire du bien aux gens autour, de revoir des regards, des sourires, etc. C'est le niveau zéro de la politique, mais il est très important. Franchement, faites-vous du bien, éloignez-vous un petit peu des écrans, des réseaux, ne serait-ce que quelques temps là pour faire une petite parenthèse heureuse. Vous allez voir, vous allez être recapable de lire un petit peu là, de vous concentrer. Vous allez avoir envie de regarder les trucs autour de vous. Ça a l'air très con là, ça a l'air d'être un bouquin de développement personnel. Mais je répète, on ne sortira pas de cette marche forcée vers l'inhumanité, l'inhumain, sans nous dénumériser, sans nous sortir du cyberespace et de cette manière de nous auto-enfermer et de nous rendre nous-mêmes complètement dépendants d'un macro-système technique, informatique. Voilà, un petit peu de sueur, un petit peu de bisous, des câlins, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là-haut.
Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci à Valentin pour ses explications, aux intervenants de l'Interorga contre Campus IA. Je vous rappelle le lien qui fédère les actions de la mobilisation. C'est sur Linktree, l'adresse linktr.ee/stopcampusia. Merci donc à Lolo pour la prise de son. Merci à Guy pour la technique. On se retrouve dans les Amis d'Orwell dans deux semaines, le vendredi 12 juin de 21h à 22h30. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de Souriez, vous êtes filmé. Souriez info, souriez ez.info. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.